16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans un nouveau numéro d'Historiquement vôtre. Deux heures d'histoire rieuse en compagnie d'un garçon très rieur lui aussi. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à vous. Aujourd'hui au menu d'Historiquement Vôtre, trois personnages dont les destinées risquent de vous secouer un peu Stéphane, puisque nous allons parler de ces personnages monarques et puissants qui ont été déchus. Chose qui heureusement ne vous est jamais arrivée. Une fois, Nagui a bien tenté de vous doubler dans le classement des animateurs préférés des Français, vous l'avez vite maté.
C'est bien tenté, mais c'est raté.
Nos personnages, eux, n'ont pas eu votre cran ou votre chance.
En effet, Mathieu, eux, ils ont été sacrément déchus de leur sacre. À commencer par le roi Charles X, qui a pris la succession de son frère au pouvoir. Un pouvoir qu'il n'a pas su garder face aux révolutionnaires qui ont tout fait pour le faire tomber. Et ils ont réussi en moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter, vous verrez. Puis, lui aussi a dû rendre la couronne, le roi d'Espagne, Juan Carlos. Toujours vivant, mais retiré du pouvoir depuis plus de 7 ans maintenant. Je vous raconte le destin de celui qui a su séduire son peuple avant de le décevoir pour de sombres histoires de femmes et d'argent et a carrément fui son pays. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un autre monsieur très puissant, qui est un peu moins aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, il était molto puissante, il est aujourd'hui un po' meno puissante. Je vous brosse le portrait à 110% vrai de Silvio Berlusconi. Que devient le cavaliere qui, à côté des excès de Trump, Bolsonaro et consorts, incarne presque avec le recul l'âge d'or de la politique digne ? Réponse aux alentours de 17h20. Mais d'abord, saluons nos chroniqueurs, Stéphane. Ils ne sont pas toujours très bien peignés, leurs chemises sont loin d'être impeccables, comme le dit Olivier Pouls.
Quand on voit leur tête, on a bien compris, ils sont même pas lavés.
Mais on les aime quand même, ce sont nos chroniqueurs.
Mais oui, lavés ou pas, on s'en fiche, ils sont là tous les jours avec nous. D'abord, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, moi je m'en tiens à l'actualité. Vous savez que le dernier compagnon de la Libération s'apprête à entrer au Mont-Valérien. Et à cette occasion, eh bien, j'ai eu envie d'évoquer Émilienne Moreau. Émilienne Moreau, je suppose que ce nom ne vous dit pas grand-chose. Et pourtant, cette femme, elle a réussi l'exploit extraordinaire d'être à la fois une héroïne de la guerre de 14, à seulement 17 ans, et 20 ans plus tard, compagnon de la Libération pour son action dans la Résistance. Mmh. C'est vraiment une femme hors du commun. Et voyez, par l'entrée du dernier compagnon de la Libération un 11 novembre au Mont-Valérien, ça fait le lien entre ces deux grandes guerres. De la même manière, Émilienne Moreau a fait le lien comme héroïne.
Et justement, faire le lien avec le sujet qui suit
est du coup difficile.
Oui. Hein, parce que David, aujourd'hui, David Castello-Lopez, déjà, je vous dis bonjour.
Merci.
On vous salue. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver autour de cette table. Et vous nous parlez aujourd'hui, David, de ce qui fait notre quotidien. C'est la castration chimique des porcs.
Oui, voilà. Ça fait surtout le quotidien des porcs. C'est vrai.
Pour eux, ouais. Et des éleveurs.
Et voilà, c'est une histoire un peu triste parce que moi, les animaux, j'aime bien ça. Et donc, on castre les porcs. Je vous expliquerai pourquoi on les castre et depuis quand ça existe le fait d'avoir cette façon un petit peu moins cruelle de les castrer.
Ça change totalement le goût de la viande, je crois. Ouais. Surtout le fait qu'un porc soit castré.
C'est un peu la même chose pour le bœuf. Et justement,
joli.
Le bœuf est castré, évidemment.
Et,
oui.
Et avec du bœuf, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Eh bien, on le met dans des boîtes et ça s'appelle le cornet de bœuf.
Est-ce que vous avez déjà goûté du cornet de bœuf ?
C'est une des choses que je préfère sur la terre.
Moi, j'en mange une fois par an, en souvenir de mon grand-père qui a mangé ça dans la ligne Maginot pendant 2 mois.
Je vous raconterai.
Et elle mange la grenaille pour souvenir de ses ancêtres napoléoniens.
Mais c'est authentique, c'est vrai.
Je vous raconterai l'histoire du cornet de bœuf et je vous donnerai même une recette pour le faire chez vous.
Oh là.
Et il n'est pas impossible que je vous en fasse goûter tout à l'heure.
Oh. Enfin, haché menu, c'est comme ça que finira certainement Stéphane dans le quiz qui l'oppose chaque jour à la redoutable Clémentine Portier-Kaltenbach. Burn to be alive, ce sera aux alentours, vous le savez, de 5h-10, le premier quiz radiophonique.
Classé perversion sexuelle.
Oui, mais tout de suite, partons à la rencontre de notre premier personnage qui a été sacrément déchu de son sacre. Tu parles, Charles. Est-il à l'origine de cette expression ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce roi a beaucoup parlé, mais mal agi aux yeux des révolutionnaires qui ont tout fait pour le faire tomber. Stéphane Bern nous raconte un roi déchu, Charles X.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le 28 juillet 1830 à Paris. Les émeutes font rage. Des barricades formées de calèches renversées, de meubles, de débris de tout genre s'élève un peu partout dans les rues. Le drapeau tricolore révolutionnaire a été hissé sur les toits de Notre-Dame. De toutes parts, on entend des cris et ces mots « À bas les Bourbons, vive la République !» Les soldats envoyés par le gouvernement sont submergés par le trop grand nombre d'émeutiers, que dis-je, de révolutionnaires. Un messager est envoyé en urgence au château de Saint-Cloud où se trouve Charles X. Mais il assiste à la messe, alors le messager reste sur un tabouret jusqu'à la fin de l'office et le roi ne prend même pas la peine d'y répondre. Les courtisans s'étonnent du calme affiché, mais pour ne pas être en reste, affichent la même sérénité. Comme d'habitude, après le dîner, on dresse une table pour jouer aux cartes. Enfin, le duc de Duras, premier gentilhomme de la chambre, s'approche du roi pour lui annoncer que Paris est perdu. C'en est terminé du règne de Charles X. Charles-Philippe de France, futur Charles X, est le petit-fils de Louis XV. Né en 1757, il grandit dans une cour assombrie par le deuil de ses parents. Lorsque son grand-père meurt à son tour, son frère aîné devient le roi Louis XVI. On raconte que le jour du sacre, le comte d'Artois, qui a tout juste 18 ans, c'est lui, égare sa propre couronne. Élégante et frivole, on le considère déjà comme le trublion de la famille. Charles aime jouer gros et festoyer. Dépensant sans compter, il décide de construire un petit château digne des fêtes qu'il projette d'organiser. Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, met son beau-frère au défi de réaliser cette construction en moins de 3 mois. Le comte d'Artois parie la somme de 100 000 livres. Jour et nuit, près de 900 ouvriers travaillent sans relâche pour achever le palais à temps et la construction coûte au moins le triple du montant du pari, si bien que le château est surnommé « la folie d'Artois ». Avec la Révolution, cette insouciance ne peut durer. Face au danger qui menace sa famille, Louis XVI ordonne à son jeune frère de quitter la France. Qu'à cela ne tienne, de toute façon, le comte d'Artois est persuadé que la Révolution passera comme un mauvais orage. « Nous rentrerons dans 3 mois », s'exclame-t-il. Ces 3 mois vont en fait durer 25 ans. En exil, le comte d'Artois fait bien peu de cas de son épouse et rejoint par Madame de Polastron, sa maîtresse adorée. La jeune femme le suit en Allemagne, en Italie, en Angleterre, où, hélas, le climat ne lui réussit pas. Le 26 mars 1804, atteinte de tuberculose, Madame de Polastron est sur le point de rendre l'âme. Artois, désespéré, est à ses côtés. La mourante lève une dernière fois les yeux au ciel. « Une grâce, Monseigneur, une grâce. Soyez à Dieu, tout à Dieu. » Bouleversé, le comte d'Artois répond « Je le jure. » La disparition de celle qui était présente à ses côtés pendant toutes ces années marque irrémédiablement le prince. Sa frivolité s'est envolée. Désormais, il trouvera la paix dans la religion. Le comte d'Artois n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Louis XVI a été guillotiné en 1793 et son fils, le petit Louis XVII, est mort en captivité. Désormais, Artois est deuxième sur la liste des successions au trône après son frère, le comte de Provence, qui se présente comme le roi Louis XVIII. En France, l'empire que Napoléon a bâti semble sur le point de s'écrouler. C'est l'occasion pour les deux Bourbons de reprendre la main. Le comte d'Artois revient en France au nom de son frère qu'il a nommé lieutenant général du royaume. À peine est-il arrivé qu'Artois est contacté par des agents royalistes. « Nous sommes résolus à jouer une partie décisive », leur aurait-il dit. « Le roi viendra dès que les événements le permettront. Quant à moi, je suis en France et je n'en sortirai pas. » Effectivement, quelques mois plus tard, Louis XVIII, soutenu par l'Empire autrichien, le Royaume de Prusse et la Russie, monte sur le trône. Le nouveau roi mène une politique de réconciliation avec les anciens révolutionnaires, mais sa santé lui fait défaut. Et bientôt, c'est Artois qui nomme les ministres, devenant le maître occulte du gouvernement. Dans les faubourgs de Paris, on raconte que le roi, devenu impotent, est dévoré de jalousie envers son frère. « On se plaint de mon règne, ce sera bien autre chose sous mon successeur. On ne connaît pas mon frère, on verra », prédit le roi avant de mourir, le 16 septembre 1824, entouré de sa cour. Lorsque le souverain pousse son dernier soupir, un gentilhomme laisse retomber le rideau de son lit, s'approche du comte d'Artois et dit « Sire, le roi est mort ». Les membres de la famille qui sont agenouillés autour du lit baisent la main du nouveau roi et celle du souverain défunt, selon l'usage. On ouvre alors la porte à deux battants de la chambre, tandis qu'on s'écrie en désignant le comte d'Artois devenu Charles X, « Le roi, messieurs ». Pour inaugurer son règne, Charles X remet au goût du jour le traditionnel sacre des rois de France à Reims. La cérémonie se veut grandiose. Elle témoigne surtout d'une volonté de retour en arrière, avant la Révolution, quand la monarchie était absolue et de droit divin. La ville se transforme sous les tentures, les drapeaux et les arcs de triomphe. Pour l'occasion, le roi entièrement fait recouvrir d'or son carrosse. Il est si lourd qu'il faut 8 chevaux pour le tirer. Le 28 mai 1825, le roi se met en route vers Reims avec son fils, le dauphin. Soudain, une immense détonation se fait entendre. C'est la garde qui tire une salve pour saluer le passage du nouveau monarque. Les chevaux effrayés s'emballent, bousculant tout sur leur passage. Il est impossible de les arrêter et Charles X pense voir sa dernière heure arriver. Au bout d'un quart d'heure, on parvient enfin à maîtriser les montures. Le roi est sain et sauf, mais la foule murmure sur son passage que c'est un mauvais présage. Dès le lendemain de la cérémonie, des pamphlets circulent en cachette pour discréditer Charles X dans l'opinion. On l'affuble du surnom de la bêtise. Vous avez compris,
j'ai compris le jeu de mots, en deux mots.
En raison de son intransigeance religieuse, du roi des veaux, du roi cruche. En plus de ce sacre, qui rappelle un peu trop l'Ancien Régime, Charles X a démarré son règne avec une mesure plus qu'impopulaire. En avril 1825, une loi a été votée pour indemniser la noblesse exilée dont les biens ont été confisqués pendant la Révolution. Le mécontentement gronde. Lors d'une fête organisée au Palais Royal, le roi paraît sur une terrasse. La foule se met à hurler « À bas les ministres, à bas les aristocrates !» Il faut appeler la garde pour disperser les mécontents. Mais Charles X ne semble pas prendre l'avertissement au sérieux. En 1830, son attention est tournée vers les élections dont les résultats sont catastrophiques pour son gouvernement. Alors que les ministres devraient se retirer, Charles X les retient auprès de lui et publie 4 ordonnances qui vont précipiter sa chute. 2 d'entre elles s'attaquent à la nouvelle chambre élue, proclamant sa dissolution et fixant la date de nouvelles élections. Le roi abolit aussi la liberté de la presse et rétablit la censure. C'en est trop pour les Parisiens qui se soulèvent le 27 juillet 1830. En seulement quelques journées, surnommées les Trois Glorieuses, les troupes royales sont submergées. Tout s'est passé si rapidement, Charles X n'en revient pas. À regret, il signe le retrait des ordonnances qu'il avait lui-même voulu quelques jours plus tôt, mais ce n'est pas assez. Il doit abdiquer en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux, et il s'exile en Angleterre. Le jour du départ, ses officiers lui baisent les mains. Nombre d'entre eux brisent leur épée, jurant de ne jamais servir aucun autre souverain. Mais tout ceci ne sert à rien. Le roi déchu ne reviendra plus jamais en France et meurt en exil dans l'actuelle Slovénie. Ultra-catholique, ultra-royaliste, on retiendra que la politique de Charles X a déclenché les Trois Glorieuses. Enfin, pas vraiment glorieuse pour lui, puisqu'en provoquant cette révolution, Charles X est tombé de haut et même tombé du trône.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Charles X, nous sommes Stéphane avec l'écrivain François de Coustin. Bonjour François.
Bonjour.
Bonjour François de Coustin, vous êtes biographe de personnages de la Restauration. Vos livres Louis XIX, Duc d'Angoulême et Élie de Caze, Le Dernier Favori, ont été publiés aux éditions Perrin. Si vous deviez écrire la biographie de Charles X, quel titre vous lui donneriez et quel rôle de fait a-t-il joué dans l'histoire selon vous?
Alors je lui donnerais le titre Charles X ou l'inconstance. Inconstance parce que cet homme charmeur, très charmeur, était absolument incapable de garder une ligne directrice. Alors vous allez me dire, si, il était très, très ultra. Mais je pense que c'est surtout sous la pression de son entourage composé de ceux dont Talleyrand disait qu'il n'avait rien appris ni rien oublié. Charles X, lui, à mon avis, oubliait assez vite. Il oubliait surtout beaucoup ses promesses. C'est pour ça que je le trouve très inconstant.
Stéphane racontait que lorsque la Révolution française éclate, le comte d'Artois, donc futur Charles X, ne prenait pas cette révolte au sérieux. Comment ça se fait qu'il était si insouciant, si déconnecté, pour ainsi dire?
Il ne l'a pas pris au sérieux comme une révolution, vous savez, on connaît le mot qui n'est pas de lui, mais c'est une révolte, non sire, c'est une révolution. Mais il part dès le 16 juillet, parce qu'il y a des listes de proscriptions de nobles, d'aristocrates, de princes qui sont publiées au Palais Royal, qui est un des lieux où fermente la révolution à Paris. Et il est généralement à la tête des listes de proscriptions. Donc dès le 16 juillet, donc 2 jours après la Bastille, il part en carrosse dont on a soigneusement gratté les armoiries, mis de la peinture fraîche dessus, et part vers la frontière la plus proche, c'est-à-dire la Belgique. Donc, on ne la prend pas au sérieux, mais on prend le 14 juillet au sérieux, en tout cas.
Dans votre livre, Élie de Caze, Le Dernier Favori, vous écrivez que lorsque Louis XVIII régnait, le futur Charles X avait un rôle prépondérant dans la politique, mais que certains membres du gouvernement voulaient le pousser dehors. Par quels actes cette défiance s'est-elle traduite ?
Oh, elle s'est traduite de façon extrêmement subtile. Le roi était en mauvaise santé, celle de Charles était insolemment bonne. En revanche, Louis XVIII avait une confiance absolue dans le fils aîné de Charles, Louis, duc d'Angoulême, le Louis XIX de mon livre, et il aurait bien aimé faire passer la couronne directement de l'oncle au neveu en passant au-dessus de la tête du père. Et alors là, Decazes, très subtilement, Decazes qui était le favori et le principal conseiller et un des principaux ministres du roi, a commencé toute une campagne de presse par la presse anglaise. Alors vous allez me dire, c'est très bizarre, mais en fait la presse anglaise était très lue en France, parce que comme il y avait une relative censure sur la presse française, on estimait que la presse anglaise disait plus de choses. Et donc il y avait des correspondants parisiens qui faisaient passer des informations. Mmh. Et Decazes a fait passer énormément de papiers contre monsieur, en espérant qu'on pousserait celui-ci à l'exil. Mais c'était illusoire.
François de Coustin, qu'est-ce qu'on sait? Parce que cette phrase accordée, attribuée à Louis XVIII sur son lit de mort, « On se plaint de mon règne, ce sera bien autre chose sous mon successeur, on ne connaît pas mon frère, on verra ». Est-ce qu'elle est véridique? Est-ce que des sources l'attestent?
Oui, absolument. Je l'ai vu dans plusieurs témoignages de l'époque que j'ai pu lire quand j'ai préparé mes livres. Louis XVIII savait parfaitement que son frère mènerait une politique beaucoup plus restrictive que la sienne. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit sur son lit de mort. Je pense qu'il l'a dit avant, pendant. En revanche, je sais que sur son lit de mort, il a eu une autre phrase qui est très redoutable et qui indique bien l'avenir. Il a dit à son frère « J'ai composé avec les politiques et je meurs dans mon palais ». Ça, c'était une leçon. Le problème de son frère, c'est qu'il n'a pas composé avec les politiques et il n'est pas mort dans son palais.
Lorsque Charles X devient roi, il décide, on l'a dit, de réintroduire le sacre des rois de France à Reims avec tout le faste de l'Ancien Régime. Déjà, comment cette décision a été prise? C'est lui personnellement? C'est ses pères? Il a été conseillé? Comment ça s'est passé? C'était pas très futé quand même.
Ah, futé, je sais pas. C'est lui qui l'a voulu. Mmh. Mais il faut savoir que Louis XVIII s'était posé la question de son propre sacre. Il ne s'est finalement pas fait sacrer parce que tout le rituel du sacre lui semblait peut-être ancien et pénible à supporter pour un homme malade et qui avait de la peine à se déplacer, parce qu'il y a un moment où vous faites coucher par terre comme un évêque, donc, parce que c'est un sacre. Hein. Il y a tout un rituel qui est aussi un rituel extrêmement religieux et un rituel que Charles X a voulu respecter à la lettre pour vraiment, je pense, redonner à la monarchie son aspect le plus traditionnel, le plus ancien, le plus séculaire, sauf que ça ne passait pas dans la France de 1825, qui avait connu une révolution longue, un sacre de Napoléon qui avait quand même été un petit peu plus simple, et donc les gens n'ont pas compris ce sacre, c'est-à-dire que la cérémonie a eu lieu, mais elle était incompréhensible pour les contemporains.
C'était un roi qui a toujours eu des idées absolutistes. Je parlais des ordonnances, l'abolition de la liberté de la presse, rétablissement de la censure. Au fond, il n'avait jamais compris que les temps avaient changé, que les mœurs et les opinions n'étaient plus les mêmes.
Ah non, du tout. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un homme qui n'avait rien appris ni rien oublié. Pour lui, la France devait redevenir telle qu'elle était
avant la Révolution.
En 1788. Revenir à un moment où il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de contestation de l'autorité monarchique, où la religion reste l'axe fondamental de la vie dans le pays. C'est ce qu'essaye de restituer Charles X, en ne comprenant pas effectivement que le monde a changé. Et lui ne le comprend pas, mais pire encore, tout son entourage le convainc qu'il est dans la bonne voie. Donc il est entouré d'hommes politiques qui vont dans ce sens.
Même ses fils, Angoulême et Berry?
Berry, le problème quand Charles X est sur le trône, c'est que Berry est mort depuis 5 ans déjà. Oui. Et que ça a d'ailleurs été, vous faites bien de citer le duc de Berry, c'est l'assassinat du duc de Berry est le traumatisme fondamental de la monarchie. Et c'est ce qui fait sans doute que Charles se raidit, c'est que un monde où on est capable encore d'assassiner un prince du sang est un monde qu'il faut réformer. L'autre fils, le duc d'Angoulême, lui, était plus libéral, mais Charles X s'en méfiait comme de la peste.
Finalement, avec Charles X, tout était écrit et la Restauration pouvait caler à sa chute, finalement.
C'est ce que disait bien son frère Louis XVIII, c'est que le règne de Charles serait redoutable. Quand Charles X est monté sur le trône, L'écrivain Stendhal, qui écrivait des notes à ce moment-là, des chroniques politiques pour la presse anglaise, justement, avait dit que tout l'espoir des gens était sur un règne court et sur l'avènement de Louis XIX, donc le duc d'Angoulême, dont on espérait que ce serait un roi libéral.
Dans le récit, Stéphane raconte aussi que Charles X était extrêmement calme lors de la révolution de 1830. Là encore, un peu comme en 1789, est-ce qu'il n'y croyait pas ou est-ce qu'il était résigné? Est-ce qu'à un moment, il a abandonné tout espoir?
Ah non, pas du tout. Il y croyait absolument, oui, bien sûr. Quand il revient de la chasse, le premier jour de la Révolution, on lui dit que ça bouge à Paris, que la bourse a chuté, que les gens s'émeuvent. Et alors ça, c'est son fils qui répond « Bof, la bourse remontera ». Donc, vous voyez, il y a une espèce de côté « ce que je fais est bien, et comme ce que je fais est bien, tout redeviendra normal ». Il y a une incompréhension totale. Charles X, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe.
Du coup, il abdique pour son petit-fils.
Absolument, le 2 août.
D'abord, il abdique pour son fils Louis XIX. Vous le racontez dans votre livre, d'ailleurs, sur Louis XIX, il est roi un quart d'heure, c'est ça?
Oh, il est roi quelques secondes. Il le force à renoncer au trône avant d'abdiquer lui-même. Parce qu'une fois qu'il aurait abdiqué, Charles, Louis XIX devenait roi et il pouvait dire « je fais ce que je veux ». Non, il le force à renoncer au trône, d'abord, à signer avant. Donc une fois que Louis a signé, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien dire, Charles peut abdiquer et c'est Henri qui devient roi. Et la couronne passe pfft, au-dessus de la tête de Louis.
Et ça devient Henri V, comte de Chambord, il a refilé la patate chaude. Le seul qui est défendu Charles X, au fond, c'est Chateaubriand.
Oui, mais alors c'est un soutien toujours ambigu avec Chateaubriand, parce que Chateaubriand, c'est le légitimiste par excellence. Mais Chateaubriand, c'est aussi l'homme qui a des textes magnifiques sur la liberté de la presse. Donc l'ordonnance qui réduit à rien la liberté de la presse ne peut que choquer Chateaubriand. Mais Chateaubriand, c'est le fidèle à la monarchie. Les pages des mémoires d'Outre-Tombe sur sa visite au roi.
C'est magnifique.
Tout à fait.
En tout cas, merci beaucoup François de Coustin. Je rappelle vos livres dédiés à la Restauration. Louis XIX, duc d'Angoulême, qui est l'inconnu, vraiment de notre histoire.
Qui mérite d'être connu.
Il mérite d'être connu. Et Élie Decazes, Le dernier favori, tous deux parus aux éditions Perrin. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qui participent à la grande histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, vous nous entraînez dans l'intimité d'une héroïne oubliée. Son nom, Émilienne Moreau. Héroïne de 14, mais héroïne aussi de la Résistance.
Incroyable, incroyable vie que celle d'Émilienne. Elle est née en 1898 à Vingles, dans le Pas-de-Calais, dans une famille de 4 enfants. Et son père était mineur à la retraite. En fait, il était porion. Je précise parce qu'actuellement, on diffuse une belle série télévisée sur Germinal. Et ce mot apparaît, un porion, c'est un contremaître dans la mine. Donc son père, à 50 ans, prend sa retraite. Il a travaillé 38 ans à la mine. Et en juin 1914, il ouvre une toute petite mercerie, épicerie à Loss, en Goëlle, à quelques kilomètres de Lens. Bon, en juin 14, août, c'est la guerre. Et la ville, assez rapidement, va être occupée par les Allemands. Et d'ailleurs, le papa d'Émilienne ne survivra pas à cette première année de guerre. Émilienne, elle, crée dans une cave une école improvisée pour les enfants de Loss. Est-ce qu'on dit Loss ou est-ce qu'on dit Loss On dit Loss, il me semble. Et au bout d'un an d'occupation par les Allemands, le 25 septembre 1915, les Britanniques, en fait un régiment écossais, tentent de reprendre la ville. Et là, au péril de sa vie, Émilienne se porte à leur rencontre pour leur donner des indications sur les positions de l'ennemi dans la ville. Et durant la bataille, elle organise dans sa maison un poste de secours avec l'aide d'un médecin écossais. Elle fait mieux que ça, Émilienne, ce qui est quand même insensé pour l'époque. Elle-même prend les armes et à la grenade et au revolver, elle abat 4 soldats allemands embusqués en ville. La ville est reprise par les Britanniques. Alors, Émilienne devient l'héroïne du moment, l'héroïne de Loss. Elle a 17 ans. Le 27 novembre 1915, elle est décorée de la Croix de guerre avec palme à Versailles. Elle est reçue par le président de la République. À l'époque, c'est Raymond Poincaré. Puis elle est reçue à Londres par le roi George V. Évidemment, on va utiliser son image pour entretenir le moral de la population, le moral des troupes. Ses mémoires, elle n'a que 17 ans, hein, je me répète, elles sont publiées fin 1915 par la presse française et britannique. Ce qui est d'ailleurs terrible, c'est que quand on lit dans la presse de l'époque une interview d'elle, elle explique que son rêve est de devenir institutrice et que si ce rêve se réalise, elle enseignera à ses élèves la haine des Allemands, peuple impardonnable. Voilà ce qu'on peut dire dans une interview dans la presse en pleine guerre. Il y a même un film qui va être tourné à son propos en Australie en 1916, The Joan of Arc of Laos, la Jeanne d'Arc de Laos. Bon, ça n'a jamais été distribué en France, hein, mais bon, je ne sais pas ce que ça donnait. Et selon ses voeux, Émilienne Moreau termine la guerre comme institutrice dans une école de garçons à Paris. Après-guerre, elle se marie avec un militant SFIO. Elle devient une très ardente militante socialiste elle-même. Elle continuera d'ailleurs à son engagement jusqu'à la fin de ses jours, en novembre 71. Mais arrive la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est pas si vieille, hein, elle a à peine la quarantaine. Elle est mise sous surveillance par les Allemands parce qu'ils savent bien que c'est une personnalité symbolique de la victoire des Français pendant la Grande Guerre. Ça ne va pas empêcher Émilienne d'entrer dans la résistance avec son mari. Il distribue des tracts, des journaux clandestins, elle transporte des fonds, elle effectue plusieurs missions et échappe à plusieurs reprises à des arrestations. Et elle va même finir par parvenir à gagner Londres, où elle arrive le 7 août 1944. Et après quoi, elle intervient régulièrement sur la BBC. Vous voyez, son nom ne nous dit quasiment rien. Oui, mais pourtant, c'est extraordinaire ce qu'a fait cette femme. Elle est l'une des incarnations de la résistance française féminine. Elle est surtout l'une des 6 femmes à être faite compagnon de la libération. C'est le général de Gaulle qui la décore en août 1945 à Béthune, Émilienne Moreau. Alors, si je l'ai choisie justement cette femme, parce qu'elle fait le lien entre les deux guerres. Et c'est précisément ce qu'a choisi de faire notre président de la République cette année, en choisissant la date du 11 novembre pour procéder à l'inhumation au Mont Valérien du dernier compagnon de la Libération. Pourquoi ? Parce que c'est le 11 novembre 1945 qu'était inhumé au Mont Valérien les 15 corps de combattants choisis afin de symboliser la participation victorieuse de la France à la Seconde Guerre mondiale. La brève allocution prononcée par le général de Gaulle à l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1945 commençait en ces termes « Mort pour la France, mais triomphant comme elle, tombé sur tous les champs de bataille où soit dans la lumière, soit dans l'ombre, c'est jouer notre destin, ramené par tous les chemins de nos douleurs et de notre victoire, voici donc ces morts revenus ». La présence du corps d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération à l'Arc de Triomphe, puis son transfert et son inhumation au Mont Valérien, renverra à ce 11 novembre 1945. Ainsi, les morts et les héros des deux grandes guerres seront-ils associés dans un même hommage ? Émilienne Moreau en fait partie, même si son nom ne sera pas cité. Voilà encore une femme qui mériterait les hommages du Panthéon.
Merci beaucoup Clémentine. Le message est transmis, j'imagine, grâce à la radio.
Reste à savoir si on dit l'os ou voilà. L'os. Oh,
j'ai honte,
la question est lancée.
Oui.
On peut dire les deux, me dit-on en régie, certainement au hasard.
Mais on aimerait savoir comment le disent les gens
on
du Nord.
On a appelé, ils ont dit, comme vous voulez. Ah, ils sont sympas.
Oui.
Ah,
bon, ouais, les gens du Nord sont ultra cool.
Ah, mille bisous. Ouais. Vous restez avec nous, Clémentine, évidemment, puisque le quiz arrive.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Avant le quiz aujourd'hui, j'aimerais tordre le cou à une vilaine rumeur qui dit qu'il m'arriverait de favoriser Stéphane en le guidant vers la bonne réponse au détriment de Clémentine. Ça me fait beaucoup de peine que vous pensiez ça.
Je vais dire non, je vais me planter, mais je vais dire non.
Je vous inciterai plutôt à réfléchir.
Alors je vais dire oui.
Moi je dirais pourquoi pas, oui.
Alors réfléchissez bien.
Donc je vais répondre en fait non.
Et c'est une mauvaise réponse.
Vous êtes dégueulasse, hein.
Mais pas du tout. Mais pourquoi on m'accuse de tricher dans ce quiz ? C'est vraiment bizarre. Jour à Berne de Biela. Stéphane, à Orléans. Vous connaissez Orléans ?
Bien sûr. J'ai présidé une certaine année
Le 8 mai,
les
bien sûr.
Les fêtes joanniques.
C'était un triomphe, oui.
Vous savez,
oui.
C'est vraiment fou quand même. Parce que Stéphane Bern, je me disais, il en rajoute sur ses connaissances. Oui. L'autre jour, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, j'ai visité un petit château à côté de chez moi. J'ai dit, je te dis même pas le nom parce que tu peux pas connaître. Tu connais pas tous les châteaux. Je lui dis, Vendeuve, bien sûr, la collection de miniatures de la baronne. C'est incroyable, vous connaissez tout, bah, Stéphane.
Non. Vous
m'en prenez Orléans et les fêtes joanniques, excusez-moi, bah, Mathieu, bah, mais là, moi, j'en ai moins prêt. Bon, écoutez, c'est une fête majeure mythe de la.
Du mythe joannique,
exactement.
Bien sûr, mais moi, ils m'ont jamais appelé. Hein. À Orléans, Stéphane. Sur le clocher de l'église de Saint-Marceau, il y avait une statue de Jeanne d'Arc. Dans les derniers instants de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont donné le choix au maire de la ville. Soit ils détruisaient la statue, soit ils détruisaient la mairie. Le maire a sacrifié sa mairie. Vrai ou faux ? Ah, on connaît Orléans, mais on ne connaît pas tout d'Orléans, visiblement.
Soit il sacrifiait sa mairie.
Comme ça, les Allemands étaient taquins.
Mmh. Soit il sacrifiait la statue.
Yeah.
Et Stéphane, vous croyez qu'au moment de la. À quelle date exactement?
Oh, les derniers. C'est daté les derniers instants de la Seconde Guerre mondiale.
Vous croyez que les Allemands n'avaient que ça à faire d'aller demander au maire ce qu'ils préféraient qu'on bombardasse
Vous me demandez de choisir entre ce qu'ils ont. Non, la question c'est quoi?
La question c'est, est-ce que les nazis auraient proposé cette alternative au maire? Soit ils détruisaient la statue, soit ils détruisaient la mairie. Et le maire aurait sacrifié plutôt sa mairie pour sauver la statue de Jeanne d'Arc. C'est la question que je vous pose.
Elle a pas été détruite, la mairie d'Orléans, que je sache.
Eh bien, servez-vous de vos connaissances et répondez-moi.
Écoutez, je pense... Peut-être que les Allemands ont fait cette proposition et que finalement ils n'ont pas mis leur menace à exécution, c'est aussi possible.
Oui, mais là, ça vous fait une belle jambe pour répondre, Stéphane.
Écoutez, je dis c'est faux parce que j'ai vu la mairie, elle n'a pas l'air d'avoir été détruite.
Elle va bien. Et l'hypothèse qu'elle a été reconstruite ne vous effleure pas?
Si, ça me fleure, mais...
Bon, je vois mal les
Allemands. Ça les fleure. Mais quelle est votre réponse?
Je dis non.
Vous avez...
Bien joué, Stéphane.
J'ai voulu
mettre un peu de piment.
Voilà.
L'histoire est bien différente et elle est fort triste. Il y avait bel et bien une statue en haut de l'église Saint-Marceau à Orléans. Les Allemands étaient partis et pour voir si les troupes alliées approchaient, les habitants ont grimpé sur le toit de l'église. Les Américains, j'ai envie de dire, ces condriquins là sur le coup, ont cru que c'était des Allemands. Ils ont bombardé, entraînant la destruction du clocher et de la statue. Triste histoire, véridique. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Cassin. On peut se moquer de la vision un brin caricaturale que donne Jacouille la Fripouille du Moyen-Âge dans le film Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré. Mais, n'empêche, l'idée originale du film Les Visiteurs vient d'un véritable historien. Vrai ou faux?
Oui, ça c'est une question d'histoire, en effet.
Moi, tout ce que je sais du Moyen-Âge, c'est l'idée, le visiteur qui me l'a appris.
L'idée du film vient d'un véritable historien.
C'est la question que je vous pose, vrai ou faux?
L'idée d'un personnage qui voyage dans le passé, comme ça? Non. Qu'il y ait eu un consultant historien pour les détails sur le Moyen-Âge, oui, je le crois volontiers, mais que le scénario aurait été écrit par un historien.
L'idée originale du film?
Non.
Vous avez... Oh, la belle pomme.
Non, bien joué, Clémentine. Effectivement, aucun historien n'aurait pu pondre une telle histoire. C'est ce film merveilleux, qui est mon film culte, a été... L'idée originale de ce film vient tout simplement de Jean-Marie Poiré lui-même. Le plus étonnant, c'est qu'il l'avait écrit à 13 ans. Les visiteurs. Un jour de déménagement, il était retombé sur un carton dans lequel il avait ses cahiers d'écolier, où il avait eu cette idée d'un voyage dans le temps d'un serviteur du Moyen-Âge à aujourd'hui. Une idée formidable, avec ce comique d'anachronisme merveilleux, qu'ils n'ont pas retrouvé dans le dernier épisode des Visiteurs, puisque ça se passe pendant la Révolution, ce qui n'est pas très malin, puisqu'il n'y a plus d'anachronisme historique, et donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. François Mitterrand était avocat de profession. Il lui est arrivé de plaider dans des affaires qui auraient pu nuire à son image politiquement. Il avait donc un pseudo dans ces cas-là, pour être plus discret, Maître Raffray. Vrai ou faux?
Alors là, ça ne me dit rien du tout.
Il a été l'avocat de son copain...
Il a été avocat, mais sous le nom de François Mitterrand.
Oui. Il n'avait pas un pseudo?
Non.
Pour les affaires un petit peu borderline.
Je ne crois pas. Ou alors, ce n'est pas arrivé chez
moi. Maître Raffray, vous n'avez jamais entendu Maître Raffray?
Non.
Ça ne vous dit rien?
Non.
Donc vous répondez?
Non.
Vous avez... gagné!
C'est une bonne réponse, Stéphane.
Là aussi, vous avez essayé de m'induire en erreur. Si vous êtes
plus
l'affaire Raffray, ça ne vous dit rien.
Non, pas l'affaire Raffray, mais Maître Raffray, vous savez qui c'était ? C'était un notaire. Et il est connu pour avoir acheté en viager une maison à Jeanne Calment.
Oui. Ah, voilà.
Pas eu le nez creux sur ce coup-là. Question numéro 4. Ah bah oui, question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. Fondateur de l'école de Barbizon, le peintre Jean-François Millet est connu pour figurer avec un réalisme troublant des paysans dans leur milieu rural. Parmi ses œuvres les plus connues, l'Angélus, où un couple prie devant leur terre. Quand on a fait une radiographie de cette œuvre, on a vu que l'artiste avait dessiné des pousses de topinambours qu'il avait par la suite effacées. Vrai
non,
ou faux ?
Non, c'est tout à fait faux. En réalité, c'était d'ailleurs une intuition de Dali qui trouvait que ce ménage de paysans avait l'air bien triste en contemplant la terre. C'est qu'à l'origine, il y a une tombe et c'est la tombe d'un enfant. Sur laquelle ce recueil ces deux paysans.
Vous avez gagné !
Il faudrait inventer le jingle. Très bonne réponse. Parce que là, on a eu toute l'explication avec l'intuition de Dali, le cercueil de l'enfant, tout était là. Ça méritait 2 points. Mais un seul point vous sera attribué.
Sauf que le véritable pionnier de l'école de Barbizon, c'est moins Millet que Théodore Caruel d'Aligny, qui est le premier à avoir posé son chevalet dans la nature.
Vous le saviez, Stéphane ? Dites oui.
Non.
Dites oui.
Oui.
Oui, il le savait. Donc, pas de points supplémentaires, nous passons à la question 5. N'en déplaise aux esprits conservateurs, les amis. Je vous rappelle, c'est la question de rapidité. Les 24 heures du Mans, c'est une course automobile qui fait partie de l'histoire. En 1950, les vainqueurs des 24 heures du Mans sont étonnants. Pourquoi ? 3 propositions. Cette année-là, c'était un père et son fils qui l'emportent. C'était 2 hommes en couple qui l'emportent. Ou c'était un voyant et un non-voyant qui l'emportent.
3.
Un père et son fils et c'était un voyant. Alors là, l'histoire automobile, je pense qu'avec l'histoire de l'Égypte antique et l'histoire et la proto-histoire, je pense que c'est vraiment les domaines
Stéphane, ça m'amuserait
Excel.
Que le copier.
Oui, alors normalement, il y a un passage de relais. Donc comment ça se passe ? C'est-à-dire que le mec peut même pas être copié, il est non-voyant. Donc à un moment, le voyant dit « je suis fatigué, conduis un peu. Allez Maurice, conduis un peu. » Et là, il gagne les 24 heures du Mans comme ça, sans voir.
Non, c'est pas possible.
Voilà, c'est pas possible.
Non, c'est la 1.
Vous-même, c'était donc la 1, c'est donc une victoire de Clémentine Portier-Keltenbach.
J'ai voulu être élégant, vous voyez.
Oui. Oh, c'est merci, beau,
c'est
merci. Beau.
C'était un père et son fils, Louis et Jean-Louis Rosier. Le plus étonnant encore, c'est que le fils a conduit seulement 2 tours, le père a conduit tout le reste, soit 23 heures d'affilée jusqu'à la victoire.
Ah oui, ça dure 24 heures. Ben...
Bravo Clémentine.
(rire) 16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous aimez, en allant chercher les enfants à l'école, écouter un programme de qualité qui vous fasse rire, mais aussi qui vous instruise, le tout sur un ton toujours adapté à une écoute en famille, vous êtes au bon endroit.
Allez, je me lance. Je vais voir Benga ce soir.
Non.
Espérons qu'il me sucera bien sa bouche des plus à droite.
Vous vous trompez de fiche. Reprenons plutôt notre spécial. Ils ont été déchus de leur sacre. C'est plus familial, hein.
Oui, espérons qu'il me sucera bien.
Non, mais
Julien Green.
Julien Green, cet auteur.
Julien Green sort de ce corps. Enfin, si je puis dire.
Non, reprenons notre spécial.
Il nous sera beaucoup reproché cette émission avec Julien Green. Après le roi Charles X, le dernier roi de France, je vous raconte l'histoire d'un autre monarque sacrément déchu, notamment pour des raisons fiscales, lui. Le roi émérite d'Espagne, Juan Carlos. Et on continuera de parler d'argent avec vous, Mathieu, parce que vous avez retrouvé un autre grand déchu. Silvio Berlusconi.
Oui, Stéphane, un récit qui, j'en suis sûr, vous tirera des larmes, puisque tenez-vous bien, Silvio était dans les années 90 multimilliardaire, et bien aujourd'hui, en 2021, il n'est plus que milliardaire.
Le pauvre.
Oui, vous verrez que si la vieillesse est un naufrage, on sombre quand même moins vite quand on a des thunes. Une bonne nouvelle pour David.
Oui, David Cresselopez qui nous raconte les origines. Alors, il remonte aux origines, mais alors, je peux le dire, c'est sans lien avec le politique italien.
Tout à fait. Et les origines de la chose seront assez anecdotiques dans la description. C'est la castration chimique des porcs.
Voilà. Silvio, si tu écoutes, aucun lien.
Hein. Il a fait des soirées.
Oui, mais on va en parler, évidemment, comme vous attendez ça, évidemment, beaucoup plus que son programme politique. Je vous parlerai des soirées Bunga Bunga. Oui. Olivier Pouls, de quoi vous nous parlez, vous, aujourd'hui ?
Il a mis de la viande dans une boîte, cornet de bœuf.
Oui, c'est un hommage à mon ami David Castello-Lopez qui en mange au moins une fois par semaine, qui adore ça. C'est
le cornet de bœuf.
Et alors, comment ça se passe ? On boit du viande, on l'accompagne avec du viande.
box.
Alors, ben, d'abord, je vous donnerai une recette pour le faire vous-même, parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter des boîtes, mais si vous voulez, on goûtera cette boîte tout à l'heure, et je vous raconterai d'où vient ce cornet de bif. Il y a des histoires assez rocambolesques autour de la légende de ce cornet de bif.
Des histoires rocambolesques autour du cornet de bif, ça donne vraiment envie de rester avec nous jusqu'au bout de l'émission. Enfin, ils sont parfois déchus, ils sont souvent déçus. En même temps, la lutte est inégale, j'ai fait Sciences Po et pas eux. Pourtant, chaque après-midi, courageusement, David et Olivier me défient dans la lutte finale, notre célèbre quiz de fin. Je vous dis bonne chance, messieurs, car il vous en faudra. Mais tout de suite, découvrons le destin en forme de montagne russe d'un monarque espagnol très déchu, lui aussi. Il était à l'Espagne ce que Stéphane Bern est à Paros, un roi du jour et de la nuit. Sauf que lui en avait vraiment le titre, avant de devoir laisser tomber sa couronne et fuir le pays. Stéphane Bern nous raconte un roi qu'il a beaucoup déçu, une fois qu'il a été déchu, Juan Carlos.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le lundi 2 juin 2014 au matin. Ce jour-là, une équipe de télévision a été convoquée sans explication au palais de la Zarzuela dans la banlieue de Madrid. Le chef de la communication de la Maison Royale d'Espagne donne un discours afin qu'il soit introduit dans le téléprompteur. C'est le discours de Noël. Cette année, on s'y prend en avance, lance-t-il au technicien dubitatif. En réalité, Juan Carlos vient de signer un décret d'abdication, mais nul ne le sait encore. La maquilleuse entre dans le bureau du roi. « C'est la dernière fois que nous nous voyons », lui avoue-t-il. Le roi s'installe derrière sa table de travail, près des drapeaux espagnols et européens, pour annoncer face caméra et d'une voix émue son départ à ses concitoyens. Celui qui fut une légende traîne désormais de nombreuses casseroles. Alors, pour préserver la couronne espagnole, Juan Carlos n'a d'autre choix que d'abdiquer. Mais revenons aux origines. Juan Carlos est né le 5 janvier 1938 à Rome. Ses parents, Juan de Bourbon et Maria de las Mercedes d'Orléans et Bourbon, sont en exil en Italie depuis la mise en place de la Seconde République espagnole. Lorsque le général Franco arrive au pouvoir en 1939, après une terrible guerre civile, Juan de Bourbon s'entend avec le dictateur pour que le petit Juan Carlos, qui n'a que 10 ans, termine son éducation en Espagne. Il espère ainsi assurer le retour des Bourbons dans le pays après la disparition du dictateur. Seul, loin des siens, Juan Carlos doit grandir vite. À 17 ans, il intègre une caserne pour faire son éducation militaire. L'excellence est exigée de lui en permanence. Il suit des cours particuliers afin d'être parmi les meilleurs élèves. Dans les exercices de manœuvre, il se montre si énergique et courageux qu'il suscite l'admiration de ses camarades et gagne en popularité. Mais un drame terrible va le traumatiser à jamais. Lors des vacances de Pâques, le jeune prince rejoint sa famille au Portugal. Il passe de bons moments entre parties de golf et sorties en bateau, mais un après-midi, Juan Carlos tire accidentellement sur son frère cadet Alfonso et le tue. Selon les rumeurs, Juan Carlos aurait visé un mur et la balle, en rebondissant, aurait touché son frère. Selon une autre version, Alfonso aurait accidentellement bousculé Juan Carlos et le coup serait parti tout seul. Profondément meurtri, le futur souverain pense un temps à se retirer dans un monastère pour vouer son existence à Dieu. Il la consacrera finalement à l'Espagne. En bon petit soldat de la couronne, Juan Carlos sait qu'il doit faire un beau mariage. En 1962, il se marie donc avec la princesse Sofia, la fille du roi Paul Ier de Grèce. Même si les deux jeunes gens semblent s'entendre, soyons honnêtes, Juan Carlos n'est pas réellement libre quant au choix de sa promise. Pour preuve, quelques temps avant son mariage, Juan Carlos a vécu une idylle avec une belle brésilienne, mais Franco, désapprouvant cette relation, n'a pas hésité à intercepter leur correspondance. Des années plus tard, le vieux dictateur prendra la peine de rendre à Juan Carlos un paquet de lettres qui lui était destiné. Scène humiliante qui révèle qu'aucun pan de la vie de Juan Carlos n'échappait au contrôle de l'État. Quelques jours après la mort de Franco, survenue le 20 novembre 1975, Juan Carlos Ier est proclamé roi d'Espagne à l'Assemblée. Le cérémonial est réduit au minimum. L'estrade a été refaite en toute hâte pour pouvoir accueillir Juan Carlos, son épouse, la reine Sofia, et leurs 3 enfants. Les insignes sur la Rolls-Royce officielle sont changés juste à temps. Pour l'instant, le peuple reste circonspect. On surnomme le jeune monarque Juan Carlos le Bref, mais il va bientôt faire l'unanimité. À force de nuits sans sommeil, de déplacements, de réunions éreintantes, le roi réussit à engager l'Espagne vers la voie de la démocratie. Un tel changement n'est pas du tout du goût des partisans du vieux régime franquiste. Le 23 février 1980, des militaires tentent un coup d'État en s'emparant du Parlement espagnol, les Cortes.
Un peu moins de 200 soldats prennent en otage les députés et le gouvernement au complet qui se retrouve à terre sous la menace des armes. Le bruit des mitraillettes résonne dans le Parlement, tandis que des chars patrouillent dans les rues de Valence, l'une des plus grandes villes du pays. Juan Carlos apprend la nouvelle par son secrétaire en fin de journée, alors qu'il s'apprête à disputer un match de squash avec des amis. Rejoignant son bureau au palais de la Zarzuela, le roi riposte en appelant un par un les généraux qui commandent les différentes régions militaires du pays pour s'assurer de leur soutien. Son coup de maître a lieu peu avant minuit. Le monarque, vêtu de son uniforme de chef des armées, prononce une allocution solennelle d'environ une minute à la télévision.
La permanence et l'unité de la patrie ne peuvent tolérer en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático.
La couronne, symbole de la permanence et de l'unité de la patrie, ne saurait tolérer en aucune façon des actions ou des attitudes de personnes qui prétendent interrompre par la force le processus démocratique, déclare Juan Carlos. Cette allocution restera jamais son heure de gloire. La nuit du sacre, comme on disait. À partir de ce moment, l'échec du coup d'État ne fait plus aucun doute et les putschistes déposent les armes dès le lendemain. Juan Carlos a gagné le respect de son peuple. Les Espagnols sont fiers de ce grand monarque, dans tous les sens du terme, hein, il mesure 1m90, sportif et moderne. Aux grandes dames de son service de sécurité, Juan Carlos n'hésite pas à rompre le protocole pour plonger dans des foules enthousiastes, au risque de perdre ses bagues et déchirer son costume. Profitant de la période de stabilité et de prospérité que va traverser l'Espagne, le roi se met en retrait et profite de la vie. Depuis l'enfance, Juan Carlos ploie sous ses devoirs royaux. Désormais, il peut s'adonner à ses passions. Il skie parfois dangereusement, conduit des motos, pilote des hélicoptères, fréquente la jet set et, il faut bien le dire, les belles femmes. En agissant ainsi, Juan Carlos s'expose pour la première fois aux critiques. L'Espagne apprend un matin d'avril 2012 que son roi s'est rendu avec sa maîtresse aussi blonde que séduisante au Botswana pour chasser l'éléphant, une activité pour le moins polémique. Accidentellement blessé, le roi est rapatrié d'urgence pour être opéré de la hanche. Le pays est sous le choc. Plus grave encore, la fille cadette de Juan Carlos, l'infante Cristina et son époux sont accusés de fraude fiscale. Le beau-fils du roi fait de la prison et le monarque lui-même a des ennuis avec le fisc espagnol. Sous la pression médiatique, gouvernementale et familiale, Juan Carlos Ier n'a d'autre choix que de démissionner en faveur de son fils Felipe en 2014. 6 ans plus tard, à 82 ans, il largue les amarres en renouant avec l'exil de son enfance. Direction les Émirats Arabes Unis, où les paparazzis ne peuvent le suivre. Désormais, Juan Carlos essaye de se faire oublier pour ne pas polluer le règne de son fils Felipe VI. Loin de sa famille et de sa patrie bien-aimée, c'est une bien triste retraite pour ce souverain déchu qui fut pendant longtemps adoré du peuple espagnol, un peuple qu'il a beaucoup déçu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Juan Carlos, nous sommes avec l'écrivaine qui lui consacre son dernier livre. Bonjour Laurence Debray.
Bonjour.
Bonjour Laurence Debray. Vous venez de publier Mon roi déchu. Mon roi déchu.
Lapsus.
C'est un peu mon roi déçu.
Très bon résumé.
Chez Stock, 8 ans après votre biographie Juan Carlos d'Espagne. C'est un roi qui vous accompagne depuis de nombreuses années. Pour l'écrivaine que vous êtes, sa vie est-elle digne d'un roman ? Qu'est-ce qui vous intéresse, au fond, chez lui en particulier ?
C'est pas un roi comme les autres. Il n'avait pas un destin tout tracé d'héritier, puisqu'il a attendu longtemps avant d'être successeur désigné par un dictateur. On l'imaginait poursuivre l'œuvre de son protecteur Franco, et puis il y a un retournement soudain. Et c'est le moteur du changement, de la démocratisation du pays, et qui fait face aux militaires lors du fameux coup d'État. Et le dernier rebondissement, qui est ce départ en exil, ne fait qu'alimenter cette histoire passionnante.
Vous l'expliquez en préambule de votre livre, Laurence Debray. Les poursuites judiciaires à l'encontre du roi émérite, Juan Carlos, n'ont toujours pas abouti à ce jour. Mais il a déjà été jugé par tout son peuple, par son fils, qui ne lui adresse plus la parole, qui ne lui envoie même pas un message pour son anniversaire, par les siens, par le gouvernement. Au fond, ça fuit à valeur de jugement, en quelque sorte.
Alors, c'est vrai qu'il bénéficie d'une impunité lorsqu'il était chef d'État. Il a reconnu ses dettes fiscales, puisqu'il est...
Il a remboursé,
mais finalement, entre ce gouvernement qui a des tendances républicaines, son fils qui essaye de sauver les meubles et l'unité du pays, eh bien, ce départ qui est assez théâtral, finalement, il le fait pas de gaieté de cœur, mais il le fait comme il a fait toute sa vie pour préserver la couronne d'Espagne. Mmh.
Vous dites qu'en partant, Juan Carlos a emmené avec lui une page exemplaire de l'histoire espagnole, la transition démocratique de velours, souvent oubliée ou galvaudée par une génération d'Espagnols qui ignore ce qu'ils lui doivent. Quelle monarchie il a incarné finalement ?
C'était une monarchie démocratique et qui réunissait tous les Espagnols après ce traumatisme de la guerre civile qui a été entretenu par 40 ans de dictature. Mmh. Donc il a moderniser le pays, libéraliser le pays dans ses mœurs principalement. Et il a pour la première fois été garant d'une constitution de compromis qui pouvait assurer l'harmonie ou la réconciliation de tous les Espagnols. Donc c'était surtout une monarchie qui n'était pas encombrée par le passé, puisqu'il a lui-même instauré une espèce de modus vivendi très décontracté, sans grand protocole, sans cour. Donc il était à la tête d'une institution qu'il se voulait moderne.
Bon, il y a quand même un mystère, Juan Carlos. Comment un homme qui a instauré la démocratie, restauré la couronne aussi, et qui l'a placé sur un tel piédestal, a-t-il pu tomber comme cela de son trône et déchoir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a d'abord peut-être la maladie des Bourbons qui permet de courir après tout ce qui bouge. Est-ce que c'est la peur de redevenir pauvre comme il l'avait été dans son enfance et l'envie de profiter de...
Mais comment il aurait pu redevenir pauvre ? Enfin,
Il était pauvre.
Il était pauvre.
Non, mais après,
en exil.
Quand on parle des problèmes fiscaux qu'il a eus, il avait peur à ce moment-là de
c'est,
de
c'est
redevenir
pas ça,
pauvre.
C'est que la couronne d'Espagne, la liste civile est très modeste, si vous voulez, par rapport à d'autres monarchies.
Il faut le dire. On pense,
tout est nationalisé, donc ils n'ont pas d'argent, voilà. Si vous voulez,
d'accord,
en tant que tel. Mais donc, il a voulu profiter, prendre sa part du gâteau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous expliquez ce qui s'est passé dans sa tête pour cet homme qui a tellement défendu la démocratie espagnole, tout d'un coup, il est tombé...
C'est comme s'il boycottait son aura et qu'il s'imaginait qu'il bénéficierait d'une impunité totale. Donc ça, c'est un grand mystère. Je crois aussi que l'Espagne tolérait des comportements dans les années 80-90, dont notamment la corruption généralisée du pays, mais avec la crise et avec justement tous ces scandales qui ont concerné tous les partis politiques espagnols, il y a une espèce de ras-le-bol et une intolérance au moindre écart. Donc une chasse en compagnie de sa maîtresse, il y a 40 ans, serait peut-être passé inaperçu. Mais quand il part, il y a un jeune sur deux au chômage. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et surtout, il y a une espèce, peut-être un sentiment de tromperie, parce qu'ils ont adoré ce roi qui se montrait avec un niveau de vie en fait assez proche d'eux, assez proche des gens, très facile d'accès. Et il se révèle en fait un homme qui a des usages ou un mode de vie trop éloigné d'eux et qui n'est pas en harmonie avec les difficultés du pays.
Et est-ce qu'on peut dire que malgré tout, dans sa manière de faire, même dans cet exil, il voulait avant tout préserver la couronne, ou bien vous pensez que c'est plutôt des raisons personnelles qui font qu'il...
Ah oui, s'il a abdiqué et ensuite s'il est parti à Abu Dhabi, et ça je sais qu'il n'est pas parti de gaieté de cœur, c'est vraiment pour protéger son fils et la couronne. Puisque aujourd'hui, avec tous les courants sécessionnistes, avec un gouvernement ouvertement républicain, la situation n'est pas facile. Donc il a toujours agi avec ce souci de préserver une couronne fragile parce qu'elle est restaurée que depuis 1975.
Ce qui est très étrange, et vous le soulignez très bien dans votre livre, Laurence Debray, c'est sur les fléaux de la balance, que pèse 44 ans de démocratie restaurée et tout ce que le Juan Carlos a apporté au pays avec, évidemment, il a mis le doigt dans le pot de confiture et puis il a couché avec un peu trop de femmes et surtout... Il a peut-être jeté son dévolu sur des femmes qu'il ne méritait pas.
Visiblement oui.
La Corinna ne se comporte pas très bien. Mais comment vous expliquez qu'au fond, tout ce qu'il a bâti soit balayé aujourd'hui par les Espagnols pour...
Alors en France, on est peut-être plus indulgent. On a l'habitude d'avoir des chefs d'État qui ont des maîtresses, ça ne choque personne. Et puis, il y a une espèce de tolérance. L'Espagne, c'est la fille de l'Inquisition. c'est la fille de la guerre civile. Et donc, voilà, donc il y a une espèce de radicalité. Et puis, finalement, les peuples ont la mémoire courte aussi.
Oui. Mais est-ce qu'il a encore des soutiens en Espagne? Est-ce que quand même, il y a des voix qui s'élèvent pour peut-être... je sais que votre livre a été très commenté en Espagne. Est-ce qu'il y a des gens...
Très critiqué, vous voulez dire?
Non, commenté. Il y a des louanges aussi. Mais est-ce qu'il y a quand même des gens qui le défendent en Espagne?
Ben, ils ne parlent pas très fort. Et c'est souvent des gens d'une autre génération. C'est-à-dire que la génération actuelle, pour eux, c'est juste un roi corrompu, un bourbon, comme vous disiez, voilà, avec des tendances pas très honorables. Et puis, ils ne savent pas ce qu'ils lui doivent. La route de la rédemption va être longue.
Merci, Laurence Debray. Je rappelle le titre de votre excellent livre, « Mon roi déchu ». Juan Carlos d'Espagne, qui vient de sortir chez Stock. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Merci à vous deux.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui ont été sacrément déchus de leur sacre. Après Charles X et Juan Carlos d'Espagne, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une figure des années 90 en Italie, Silvio Berlusconi.
J'aimerais me lancer cet après-midi dans une entreprise de réhabilitation de Silvio Berlusconi, dont on n'a pas une très bonne image de ce côté des Alpes. Par exemple, avant l'émission, vous me disiez, Stéphane, que vous n'aimez pas beaucoup Silvio Berlusconi parce qu'il était, je vous cite, « vulgos ». Mais Stéphane, ça nous arrive à tous d'être vulgaires. Vous-même, je me souviens d'une vanne que vous aviez faite à la Nive de David.
Là c'est Big Bern alors.
C'était pas vraiment du devot. Donc, le procès en vulgarité ne tient pas. Ce qui nous dérange chez Silvio, c'est son toupet. Pas celui qu'il a désormais sur la tête, celui qui lui a permis de devenir l'homme le plus puissant d'Italie. Silvio naît le 29 septembre 1936 à Milan. Il est issu de la bonne bourgeoisie milanaise. Son père est fondé de pouvoir à la banque Razzini. Sa mère, femme au foyer. Et très jeune, Silvio va nourrir un goût sans limite pour l'argent et tout ce qui en découle.
Les putes ?
Oui, entre autres, Stéphane, j'y viens, patience. Le fougueux Silvio suit des études de droit, mais enchaîne les petits jobs, car la thune, il la veut tout de suite. Il sera tour à tour photographe, vendeur de produits électroménagers, probablement chez Darty, et même animateur-chanteur à bord des paquebots Costa Croisière. Et oui, avant de régner sur l'Italie, Silvio Berlusconi a diverti des octogénaires après leur bingo sur le pont supérieur d'un bateau de croisière en leur chantant My Way en italien avant de tenter de les réveiller avec une animation.
On va secouer la boule à neige.
Retour sur l'affaire Fab en 1961 pour Silvio qui devient promoteur immobilier. Comment est-ce qu'on passe d'animateur de croisière à promoteur immobilier? Je ne sais pas, mais c'est ainsi. Et puis, sans lien logique non plus, fondateur d'une chaîne de télé, Télé Milano à l'époque. Première pièce d'un édifice télévisuel qu'il ne cessera de croître avec Fininvest, une holding financière contrôlant trois chaînes de télé, une maison d'édition, un groupe de services financiers et la plus grosse régie pub italienne. Comme il en veut toujours plus, il lance Mediaset dans la foulée, puis... Jamais rassasié, il achète quoi, Stéphane ?
Des putes ?
Non, pas des putes, un club de foot, le Milan AC. En 1986, c'est un club en difficulté, le Milan AC. Mais Silvio, il est comme tapis, il aime ça, les difficultés, ça l'excite. En deux temps trois mouvements, le AC Milan devient un grand d'Europe. Du coup, Silvio se dit « bigre », enfin « bigre ». Si j'ai pu redresser cette équipe de Brel, je peux redresser ce pays de Brel. Il se lance donc en politique avec le mouvement de centre-droit Forza Italia. Idéologiquement, Berlusconi se définit comme, je cite, « anticommuniste ». En cause, un traumatisme d'enfance. À l'âge de 11 ans, il aurait été, je cite, « agressé par des activistes communistes qui voulaient l'empêcher de coller des affiches ». À partir de là, Silvio vouera au coco une aversion sans bornes. Par chance, le communisme n'est plus trop en vogue en Italie dans les années 80. Le pays goûte alors au libéralisme.
On sait quel goût ça a.
C'est délicieux, Stéphane. Et ça correspond aux années Berlusconi qui va très vite convertir son monopole médiatique en monopole politique. Il est encore aujourd'hui détenteur du record du plus long mandat de président du Conseil italien. Ce n'est qu'à partir de 2013 que le Cavaliere entame son déclin. Il est déchu de son mandat de sénateur à la suite d'une condamnation pour fraude fiscale. Alors oui, petite parenthèse, un hobby que j'avais pas encore eu le temps d'évoquer avec vous aujourd'hui, les balades judiciaires. C'est comme les balades en gondole, mais plus cher, comme un cocktail vénitien, mais plus chargé. Corruption, fraude fiscale, financement illicite de partis politiques, pot de vin, voilà le Silvio. Plusieurs fois condamné en première instance, il a toujours été chanceusement relaxé en appel ou bénéficiaire de prescription. Pour évoquer tous ces scandales juridiques, il nous faudrait empiéter sur Punchline et on va pas se fâcher avec Laurence Ferrari. Alors, de tous les scandales, j'irai directement à celui qui vous intéresse, Stéphane, le Ruby Gate. Aka, le scandale des soirées Bunga Bunga. Qu'est-ce qu'une soirée Bouga Bouga ? Eh bien, c'est comme quand Stéphane lit un texte de Julien Green, mais en plus sale, avec des protagonistes moins majeurs et Silvio qui donne des consignes à ses invités.
Vous avez vu, il y a deux façons de secouer la boule.
Parmi les convives d'une de ces soirées philo, une certaine Ruby se retourne un jour contre Silvio et l'accuse d'avoir eu des relations tarifées avec elle alors qu'elle était mineure. David, là, c'est censé être choquant.
Oh non !
Voilà, c'est choquant ! Un milliardaire qui abuse de son argent pour coucher avec une mineure. La défense de Silvio sera empreinte d'humanisme et d'élégance, à l'image du personnage, comme on le découvrira à travers l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Silvio et son ami Walter Lavitola, journaliste du quotidien L'Avanti, et lui aussi poursuivi dans cette affaire. Je cite Silvio : « Dans quelques mois, je m'en vais pour m'occuper de mes oignons. Ailleurs, je m'en vais de ce pays de merde qui me donne envie de gerber. Je suis transparent, tellement propre dans mes affaires qu'il n'y a rien qui puisse me gêner. Je ne fais rien qui puisse être considéré comme un délit. On peut dire de moi que je baise. C'est la seule chose qu'on puisse dire. » Outre ces frasques sentimentales, ce qu'on retiendra de Silvio, c'est bien sûr son indéfectible élégance. Parmi ses plus belles performances, citons proposer à un député allemand social-démocrate le rôle d'un capot dans un film sur les nazis, qualifier Barack Obama de jeune, beau et bronzé, dire que les femmes italiennes sont si jolies qu'il est impossible d'empêcher qu'elles ne se fassent violer. Nous aurions besoin de beaucoup trop de soldats. Déclaré à un magazine, tout compte fait, Mussolini n'a jamais tué personne. Et revenir à son sujet de prédilection, l'amour, pour nous livrer cette saillie inoubliable. J'ai découvert ce qu'est le point G des femmes. C'est la dernière lettre de shopping. Sacré Silvio. Début 2022, un nouveau président de la République succédera à Sergio Mattarella. Parmi les candidats souvent cités dans la presse, et oui, Berlusconi. Stéphane, je vous vois lever votre verre.
Vous
levez votre verre, vous vouliez trinquer avec Silvio ?
Au souvenir de quelques nuits particulièrement mémorables.
Non. Il y a peu de chance, voyez-vous.
Peu de chance, vous êtes plus Juan Carlos que Silvio Berlusconi.
Oui, vous l'avez compris. Mais en plus, Sergio Mattarella est un personnage éminent. En général, ce sont des figures incontestables qui deviennent présidents
oui,
de la République
certainement
italienne.
Certainement pas Silvio Berlusconi. Non, ce sont des rumeurs. Stéphane, ouais. Il ne reviendra pas. Je pense que là, il est trop occupé à faire ses colorations.
Oui, ça prend du
temps.
C'est
tout ce qui lui reste.
Oui. En tout cas, merci, c'était passionnant.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces grands déchus, pour retrouver Mathieu, ceux qui ne nous décevront jamais, ne déchoivent. On dit déchoivent.
Oui, on dit déchoivent. À ce stade de l'émission, on peut dire déchoivent, parce qu'il est tard. Surtout quand ils choisissent des sujets aussi forts que le cornet de bif, Olivier Pouls. Où est-ce que vous êtes allé le chercher, ce sujet-là ?
C'est David qui m'a soufflé l'idée il y a quelques temps, en me disant qu'il était grand amateur de cornet de bif.
Oui, mais c'est aussi quelqu'un qui est amateur du viandox, vous auriez
dire. Je sais que ce n'est pas une référence gastronomique absolue, mais surtout, il a piqué ma curiosité, parce que je vais vous avouer un truc, je n'en avais jamais mangé.
Mais tout de suite, après le bœuf, le porc, David Castello-Lopez nous fait découvrir l'origine de la castration chimique des porcs.
Tout à fait. Je crois qu'autour de cette table, vous avez beaucoup de qualités. Vous êtes vigoureux, vous avez l'air très équilibré psychologiquement. Mais je soupçonne aussi que vous avez des lacunes. Et je pense en particulier que vous n'avez aucune idée d'à quel point les petits cochons, c'est mignon. Regardez-moi ça.
Non, c'est trop mignon.
Les petits cochons, c'est incroyablement mignon. C'est abusément mignon. Et cette mignonnerie, elle me rend triste. Pourquoi ? Eh bien, parce que malheureusement, les petits cochons ne sont pas seulement mignons, ils sont aussi délicieux. Moi, c'est une des viandes que je préfère au monde, et je ne suis pas du tout le seul à le penser. Le porc, c'est la viande la plus consommée au monde, devant la volaille et devant le bœuf. Et il y a quelque chose qui me fait encore plus de peine, c'est que les petits cochons, on ne se contente pas de les tuer pour les manger. Avant ça, on les fait souffrir énormément. Pourquoi ? Comment ? Eh bien, pour le comprendre, il faut que j'explique un peu comment fonctionne un cochon. Il y a beaucoup de cochons qui, lorsqu'ils atteignent la puberté, ont tendance à accumuler dans leur graisse deux molécules qu'on appelle l'androstérone et le scatol. Et ces molécules, elles ont un inconvénient majeur, c'est qu'elles sentent pas bon du tout. L'androstérone, ça sent l'urine, et le scatol, je me permets de vous laisser deviner ce que ça sent. Scatol, scatologique. Mais il y a une solution pour que les porcs ne développent pas ces molécules, c'est de les castrer avant qu'ils atteignent la puberté. Alors pourquoi pas ?
Mais pas à cet âge-là quand même.
Exactement, à cet âge-là
là,
malheureusement. Mais oui, alors pourquoi pas les castrer ? Le problème, c'est que cette castration, elle se fait souvent de façon horrible. les petits cochons, ils sont castrés au scalpel sans anesthésie. Oh. Je suis désolé de vous infliger ça, mais c'est triste et c'est important. Alors vous allez me dire, mais comment on sait qu'ils ont mal les porcs? Eh bien, un, parce qu'ils crient. Deux, il y a des tests qui ont été faits, on sait donc qu'ils sécrètent des hormones liées à la douleur. Et trois, souvent, ils restent prostrés après, pendant des jours après l'opération. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il existe une façon de supprimer la mauvaise odeur des porcs sans les faire souffrir. Et cette méthode, c'est l'immunocastration, qu'on appelle aussi la castration chimique. J'arrive au sujet de ma chronique. Alors, j'ai cherché à savoir exactement depuis quand est-ce que ça existait, la castration chimique des porcs, parce que c'est mon travail. Et historiquement, au moins, c'était l'objet principal de cette chronique, l'origine des choses. Et donc, pour ça, j'ai contacté l'Institut français du porc, mais j'attends toujours leur réponse. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire précisément depuis combien de temps ça existe. Ce que je peux vous dire, c'est que les plus anciennes études universitaires sur la question de la castration chimique des porcs que j'ai trouvées, elles datent du milieu des années 90, donc il est raisonnable de penser que ça date de cette époque ou d'un petit peu avant. La castration chimique, ça consiste à injecter dans le cochon un produit qui empêche ses testicules de se développer. Or, on l'a vu ensemble, chez les cochons, pas de testicules égale pas de mauvaises odeurs. Alors on se dit, bah attends, si c'est tellement super la castration chimique des porcs, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, la principale raison, c'est que les éleveurs ont peur que les consommateurs, ils acceptent pas de manger de la viande dans laquelle on a injecté des trucs.
Ah oui, parce que peut-être qu'en le mangeant, le produit, il va se retrouver chez les...
Le bon sens d'Olivier.
Non. Alors voilà, il y a eu des études qui ont été faites sur le sang qui ont montré que, un, les produits injectés ont pratiquement disparu des animaux au moment où ils sont abattus, donc pas de risque d'être soi-même castré par le porc qu'on mange. Chimiquement. Et deuxièmement, les sondages qui ont été faits sur la question montrent que généralement que les consommateurs trouvent ça cool de manger des animaux qui n'ont pas souffert. Bon, il y a quand même eu
des sondages.
Oui, c'est vrai. Il y a quand même eu des avancées en matière de lutte contre la cruauté dans ce contexte, puisqu'à partir du 1er janvier 2022 en France, ce sera interdit de castrer les petits cochons sans anesthésie. Ça fera moins mal aux petits cochons et on peut encore revoir une dernière fois à quel point ils sont mignons. Parce que les animaux laids, c'est moins grave, ou les mouches, mais les animaux mignons quand même.
Non, ça on veut plus.
Mais heureusement qu'on les castre pas tous.
Non. Il y a aussi des éleveurs qui respectent leurs animaux, qui font des porcs entiers.
Voilà,
exactement.
Et c'est bon le porc entier?
Oui, c'est délicieux.
Sauf quand ça sent le.
Ouais, moi, j'ai jamais mangé de porc qui sentait.
C'est quick.
Parce que vous n'avez pas mangé de porc entier.
Moi aussi, j'ai déjà dû manger du porc entier.
Non, mais que vous l'avez mangé entièrement.
Si, j'ai déjà mangé du porc.
Non, qui n'était pas castré.
Oui, bien sûr.
C'est une proportion assez grande des porcs qui ont ce truc à la fin. C'est pas tous, donc je pense qu'on peut se débrouiller pour avoir certains porcs entiers qui ne sentent pas, mais en tout cas certains sentent.
Merci beaucoup David. Ouais. Je crois qu'on a été très précis et très complet sur le sujet. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Il est encore sous le choc de ces images de petits cochons innocents, gambadants comme ça dans la campagne avant de se faire castrer. Olivier Pouls.
Moi, je vais vous parler de tofu soyeux, alors.
Non, quand même pas. N'allez pas si loin. Parlez-nous de bœuf et d'un bœuf particulier que vous n'aviez jamais goûté avant aujourd'hui, le corned beef.
Non, vous demandez comment un type qui a fait des chroniques sur le pâté en croûte, sur le lièvre à la royale, sur la truffe peut tomber aussi bas et venir vous parler maintenant de corned beef. Eh bien, c'est à cause de, ou grâce à David Castello-Lopez, avec qui on échange souvent dans notre belle open space et qui me dit, moi, tu sais, le cornet de bœuf, j'en mange toutes les semaines, c'est bon, ça race.
Mais à quelle occasion vous mangez du cornet de bœuf?
Je mange du cornet de bœuf.
Tout seul,
parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à partager avec d'autres gens. Mais il y a ce truc, c'est que je commence...
Vous invitez un pote, ce soir, il y a soirée cornet de bœuf. Ouais. Le gars, il a forcément un truc, il ne peut pas venir.
Il peut pas venir. C'est pour commencer les repas, un petit peu ce genre. En cuisinant, on se mange un petit peu de cornet de bœuf.
Comme un apéro, comme des chips.
Et je dois vous confesser un truc. Avant aujourd'hui, je n'en avais jamais mangé. J'en avais évidemment entendu parler, mais je n'avais jamais acheté une boîte de cornet de bœuf. Je suis allé le faire à côté de Europe 1 et j'ai acheté quelques boîtes de cornet de bœuf, je les ai ouvertes, je vous en fais passer, vous allez, alors effectivement d'un point de vue visuel, ça évoque plutôt la pâtée pour chien ou pour chat d'ailleurs, mais bon, passé cette petite appréhension, j'ai goûté et je dois vous avouer que c'est pas si mauvais que ça.
Oh
j'ai
non,
mangé des trucs largement pires dans ma vie.
Alors,
moi j'en veux bien Stéphane.
Non, je me suis posé la question, mais d'où vient ce cornet de bœuf qui est évidemment associé à la guerre, qui est associé aux soldats, aux rations militaires. Il y a effectivement une relation très forte entre le cornet de bœuf et l'armée, mais ce n'est pas, ce sont pas les militaires qui l'ont inventé, puisqu'en fait, le cornet de bœuf, ça veut dire littéralement bœuf salé. Et oui. Depuis tout temps, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. L'une des obsessions des hommes était de conserver la viande, notamment en hiver, pour pouvoir avoir de la viande à manger à toute saison. Et l'une des techniques qui était utilisée, mais depuis très longtemps, pour conserver de la viande, c'était la salée. Et notamment, au XIVe, XVe et XVIe siècle, lorsque les marins partaient en mer, ils emportaient avec eux de grands tonneaux de bœuf qui étaient salés et qui permettaient donc aux marins, durant cette traversée, d'avoir un petit peu de viande de bœuf. Alors, il faudra attendre le XVIIIe siècle et l'invention très importante de Nicolas Appert, l'apertisation, donc en réalité la stérilisation, pour voir une avancée significative dans l'histoire du cornet de bœuf. Et puis surtout, en 1810, Pierre Durand, un Anglais, comme son nom ne l'indique pas, qui invente la fameuse boîte en fer.
La boîte en fer blanc.
Et ça change tout. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il va y avoir l'essor industriel de la fabrication du cornet de bœuf, essentiellement à destination des militaires. Toutes les armées du monde vont incorporer le cornet de bœuf dans les rations. Durant la Première Guerre mondiale, durant la Deuxième Guerre mondiale, le cornet de bœuf est sur tous les fronts. Et il a, il faut dire, assez mauvaise réputation. C'est pas très bon. Mais surtout, il y a de nombreux scandales qui concernent le contenu des fameux cornets de bœuf. Et là, je vais vous en raconter un. Accrochez-vous, les amis.
Ah, heureusement qu'on l'a mangé avant.
Oui, exactement. C'est pour ça que je voulais être certain que vous ayez pris votre petite dose. Alors, c'est au début du XXe siècle, en 1906, un certain Upton Sinclair, qui est un journaliste écrivain, qui mène une grande enquête sur le cornet de bœuf. Il se fait embaucher pendant 7 semaines dans les abattoirs de Chicago. Et il révèle tout ce qu'il a vu.
Non.
Et notamment la fabrication des fameuses boîtes de cornet de bœuf. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'on y trouve évidemment les déchets en tout genre des bœufs qui ont été abattus, bon, des animaux malades, c'est déjà un petit peu moins intéressant, des rats, bon, là, franchement, on n'a plus vraiment envie, et alors, cerise sur le cadeau, des ouvriers tombés dans les cuves de préparation.
Non,
ce livre fait un tel scandale à l'époque.
C'est du cornet ouvrier, en fait.
Non,
c'est
vrai, il n'y avait pas un ouvrier qui tombait dans la cuve tous les jours.
Pas toutes les 5 minutes, mais c'est arrivé. Et oui,
on ne le mangeait pas.
On n'arrêtait pas les machines, on n'arrêtait pas la fabrication. Et d'ailleurs, je vous dis, ce livre a fait un tel scandale que, suite à ça, il y a eu les premières lois votées aux États-Unis pour garantir que les produits qui étaient vendus...
Qu'il n'y avait pas de viande humaine dedans.
Et il a même, d'ailleurs, lui-même été reçu par le président des États-Unis de l'époque pour raconter ce qu'il avait vu, parce que ça a été un scandale absolu. Alors, je vous rassure, si vous voulez faire du cornet de bœuf chez vous, c'est pas très compliqué. Prenez un morceau de viande de bœuf, du paleron ou de la poitrine. Vous allez utiliser ce qu'on appelle une saumure. Donc, vous allez faire 200 grammes de sel par litre d'eau. On rajoute plein d'épices, des graines de moutarde, du poivre, du thym, du laurier, de l'ail, etc. On porte à ébullition, on laisse refroidir. Et ensuite, on immerge le morceau de viande dedans et on va le laisser fermenter pendant une quinzaine de jours dans le frigo. Il faut que ce soit bien immergé en permanence. Et après, on va le cuire au moins 3-4 heures. De manière à ce que la viande devienne complètement friable, elle se détache, et puis après, ben, vous le préparez.
Merci Olivier, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Bon, pour terminer, on va voir qui on a dans le cornet. On va jouer avec l'histoire, vous êtes prêts à vous affronter ?
Toujours.
C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Olivier, je commence par vous. Alors, je sais que vous adorez l'Antiquité gréco-romaine. On dit toujours Alésia, victoire romaine en 52 avant Jésus-Christ. Mais c'est les Gaulois qui avaient commencé les hostilités. Vrai ou faux ?
Alors Alésia qui n'est pas d'ailleurs à Alésia.
Mais n'essayez pas de donner des points.
Qui a commencé ?
Donc qui a commencé ? Je pense qu'effectivement, Vercingétorix, c'était quand même un gars qui en avait. Et c'est peut-être lui qui a donné la première couche.
Bon, c'est vrai, même si ce n'est pas Vercingétorix. Hein, c'est en 390 avant Jésus-Christ. Il y a déjà une tribu gauloise particulièrement belliqueuse, les Sénons, qui partent vers le sud pour piller Rome. Les Romains, à cette époque, préféraient le territoire italien. Il y a plus de richesses. Et surtout, les Gaulois avaient la réputation d'être forts et blonds, là où les Italiens étaient petits et bruns. Mais donc, ils ont pris leur revanche après. Mais d'abord, c'est les Gaulois qui avaient commencé. Là, vous avez raison. David, quand Henri II... le deuxième fils de François Ier devient roi de France. Il porte le jour de son sacre une tunique aux couleurs de son équipe de Soule. La Soule, l'ancêtre du foot. C'est comme si un président de la République, le jour de son investiture, avait choisi le maillot de l'OM. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est faux.
Bravo. Il avait une tunique, par contre, avec les initiales HD. HD qui veut dire...
Henri
et Diane. Et Diane, oh. Bien sûr, en hommage à sa maîtresse Diane de Poitiers. C'est sympa pour Catherine de Médicis.
Ouais, très sympa,
qui était là.
La pauvre.
Mathieu.
Oh, vous avez tous gagné, là.
Une question spécialement choisie dans votre domaine de prédilection.
Non.
Vrai ou faux, Madame Claude s'appelait en réalité Fernande.
Elle ne s'appelait pas... Ouais, bon, c'est pas Madame Claude. On en a parlé.
Comment vous l'appeliez ?
Moi, personnellement... non. Je ne sais pas, mais je dirais oui. Alors, à moins, ça se trouve, elle ne s'appelait pas Fernande, mais Monique. Je dirais vrai.
Oui, Fernande Grudet, qui
ah,
nous
oui,
a
voilà,
quittés
Grudet, oui.
En 2015, à 92 ans. Elle avait déclaré dans une émission de Patrick Sébastien, si je devais recommencer, je referais la même chose.
Voilà. Pour le plus grand bonheur.
Elle est constante, elle, au moins. Alors, la question qui départage, la plus proche de la bonne réponse, remporte la lutte finale. À la télévision britannique, en quelle année a eu lieu le premier baiser entre deux femmes diffusé avant 21h ?
À la télévision britannique.
Britannique. Alors, vous Mathieu ?
2009.
2009, vous Olivier ?
1985.
Et vous ?
2008.
C'est Olivier Paul qui gagne. C'est 1994.
Ah oui.
Et le premier baiser entre deux hommes, c'était en 1987, mais entre les femmes.
Mais c'était pas très surprenant comme question, puisque finalement...
Non mais vous êtes planté quand même.
La... Oui, mais c'était pour ça, c'est bien pour ça que je le souligne, sinon j'aurais dit que c'était une super question. Bravo, Olivier Poulx est en tête de la lutte finale,
ah bon
les amis.
Et oui.
La Belgique en force. Historiquement vôtre,
plus de respect, hein.
C'est terminé pour aujourd'hui, les amis, une émission qui hantera longtemps Stéphane à l'idée d'être lui-même un jour déchu. En attendant, lequel de nos monarques ou puissants vous a le plus touché, Stéphane ? Je suis sûr que c'est Juan Carlos, pardon de me poser la question.
Oui, parce qu'au fond, je n'ai pas une grande affinité avec le dernier roi de France, Charles X,
non,
ni
vous
avec Silvio Berlusconi, non, pas trop mon truc. Juan Carlos, je l'ai rencontré plusieurs fois et il était vraiment sympathique.
Il l'est toujours, Stéphane.
Il est toujours, mais je ne le vois plus.
Mais oui, hélas, vous allez rarement à Abu Dhabi.
Je vais aller.
Jamais même. À quoi peut-on s'attendre demain, Stéphane ?
Eh bien, demain, on réunit trois personnages dont la mort a été éclipsée par une autre mort. L'ancien président américain John Adams, mort le même jour qu'un autre président américain. La violoniste Ginette Neveu, qui était dans le même avion qu'un certain Marcel Cerdan.
Prions pour que vous ne mouriez pas le même jour que Michel Drucker. Il serait bien emmerdé à Paris Match, Stéphane. Comme certains ont pu l'être pour l'académicien Jean d'Ormesson, mort le même jour que Johnny Hallyday. Tout ce qu'il redoutait. Je vous raconte ça demain.
À demain, Mathieu.
À demain, Stéphane. À demain, les amis. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.